Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Vous ne le croirez pas si je vous le disais, mais je cours comme souffle le vent.
Franchement, il m'aurait posé la question, je lui aurais répondu « Tu peux toujours courir ». Mais qu'est-ce qui lui a pris de vouloir faire un marathon et pas n'importe lequel ? Le marathon de Pyongyang. Oui, vous avez bien entendu, en Corée du Nord, sans doute l'un des pays les plus fermés de la planète. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Pendant cette période de fête de fin d'année, je vous invite en un voyage de 4 épisodes avec des auteurs qui me racontent leurs aventures, des explorateurs des temps modernes, pour passer du papier à la voix. Deuxième épisode, un voyage au pays du matin clair et frais avec Jackie Schwartzmann, Dossard 1071, pour un peu plus de 42 km sous le regard scrutateur de la famille Kim. C'est peut-être moins impressionnant que les 50 000 athlètes qui participent en temps normal au marathon de New York. Mais tout de même, le marathon de Pyongyang, connu aussi sous le nom de prix international du marathon de Mangyeondae, s'est déroulé dans la ferveur du stade Kim Il-sung devant 50 000 spectateurs. Jackie Schwartzmann a couru ce marathon le 7 avril 2019. Il raconte cette expérience hors du temps et hors du commun dans un livre « Pyongyang 1071, publié chez Paulsen. Bonjour Jackie Schwartzmann.
Bonjour.
Vous êtes scénariste et écrivain, auteur de Polar. Après une carrière passée dans la restauration puis chez Alstom, pour votre premier marathon, vous avez choisi celui de Corée du Nord. Qu'est-ce qui vous a pris ?
En fait, je courais déjà. Je faisais des épreuves plus courtes, j'avais fait des semi-marathons. Et comme n'importe quel coureur, je m'étais toujours dit « je ferai un marathon un jour ». C'est un peu le... on en arrive forcément au marathon quand on fait ça. Et je m'étais dit que dans mon cas, j'essaierais de trouver un truc un petit peu original pour le premier. Donc pas faire Lyon ou Paris. Et puis, alors je sais plus comment, j'ai vu passer l'information, certainement sur Internet, que le marathon de Pyongyang, donc en Corée du Nord, était ouvert aux étrangers depuis quelques années. Et donc là, j'ai eu une sorte d'illumination que j'ai presque regretté plus tard. En tout cas, je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et immédiatement, j'ai eu l'idée de coupler ça avec un projet de récit de voyage. J'ai tout de suite fait un mail à un éditeur que je connaissais par ailleurs, une éditrice plutôt, en proposant ça. Donc c'était les éditions Paulsen qui font des récits de voyage, justement. Et j'ai envoyé un mail en disant, bah, tenez, j'ai cette idée-là, marathon Pyongyang, qu'est-ce que vous en pensez ? Et l'éditrice m'a répondu quasiment dans l'heure en me disant qu'il fallait qu'on se parle. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré le soir chez moi, j'avais quasiment déjà le truc ficelé, sans en avoir jamais parlé à ma femme. Limite, le soir, je lui dis, écoute chérie, tu vas rire, je vais aller en Corée du Nord faire un marathon... Et c'est déjà tout quasiment validé. Je fais le malin, mais pour de vrai, quand j'ai compris que ça allait se faire, que ça pouvait se faire, c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, moi, de l'aspect dictature, Corée du Nord, Pyongyang.
Mais justement, qu'est-ce que vous saviez de la Corée du Nord avant de partir ?
Je me souviens que j'avais vu un documentaire il y a quelques années sur Kim Jong-il, donc le père de l'actuel dictateur. Et ça m'avait fait marrer, alors entre guillemets, c'était tout l'aspect kitsch. Des fringues de tout ce pays, de cette ville. Et puis j'avais vu que c'était un documentaire qui était notamment axé sur ses déplacements en train blindé. Et j'avais trouvé ça fascinant, moi, ce type qui se baladait à travers son pays dans un train blindé avec des chefs cuisiniers qui lui mitonnaient des petits plats, avec une espèce de cour qui le suivait partout alors que le pays était en ruine et en pleine famine, quoi. Je trouvais que c'était lunaire et fascinant. Donc voilà, c'est la seule vision que j'avais de la Corée du Nord. Hormis les quelques récemment, les petites accartades entre la Corée du Nord qui cessait à des missiles et donc ce qu'on a tous suivi plus ou moins aux informations, quoi.
Vous n'êtes pas parti tout seul, vous êtes parti avec votre oncle restaurateur et une amie qui est critique littéraire. C'est quand même une drôle d'équipe pour entreprendre un tel voyage.
Ah oui, c'est même n'importe quoi. Mon oncle, en fait, est effectivement restaurateur au Luxembourg. Il est propriétaire de plusieurs restaurants et il a une passion pour le sport. Il a fait des Ironman. Il s'est lancé après dans le Xterra, c'est-à-dire que ce sont des espèces de triathlon version cross-trail un peu extrême. Et comme c'est un type qui fait jamais les choses à moitié, il est devenu champion du monde dans sa catégorie depuis de 50 ans. Voilà. Et donc c'est un type qui court énormément, qui est quasiment un sportif de haut niveau malgré son âge. Donc lui, quand je lui ai dit « est-ce que ça te dirait de faire un marathon en Corée du Nord ?», il m'a tout de suite dit « évidemment ». Et puis donc la troisième partie du trio, là, c'est Clémentine, une amie qui est donc critique littéraire, journaliste, et qui, je l'ai su un peu par hasard, a une passion pour la Corée du Nord. Un peu ce que je disais tout à l'heure, le côté kitsch, complètement lunaire et décalé. Et alors elle, en revanche, elle n'est pas du tout sportive, elle est plutôt passionnée par l'apéritif et le tabac, donc ça a été le plus compliqué. Et donc je l'ai appelée en lui disant « écoute, je sais que tu rêves de la Corée du Nord, on peut y aller, petit détail, il faut que tu cours un marathon ». Et en fait, j'ai réalisé en m'intéressant du coup au projet plus sérieusement qu'il y avait la possibilité de faire un 10 km. On est parti les deux avec Clémentine, on a retrouvé mon oncle à Pékin, qui lui, la semaine d'avant, faisait une épreuve de Xterra. Je sais plus si c'était au Vietnam ou je sais plus où. Donc il y avait à côté, en plus, très drôle, j'ai retrouvé mon oncle dans le hall de l'hôtel à Pékin. Ce qui était une première.
La vache ! 5 secondes de moi sur le même parcours qu'hier ! Et j'ai pas forcé un chalet pépère. Oh, j'ai l'épilé de mon critérium. Oh, j'ai une pêche, les gars ! Wouh !
Vous racontez d'ailleurs avec beaucoup d'humour et de recul votre entraînement, parce qu'un marathon, ça ne s'improvise pas. Mais vous vous êtes aussi documenté avant de partir pour comprendre ce pays, son économie, son fonctionnement.
Oui, alors j'ai fait un peu un mix de je me renseigne un peu et je me renseigne pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'avais dans l'idée de partir en étant le plus vierge possible, de faire un peu Tintin au pays des soviets, quoi, de débarquer sans être très au fait du régime. Donc j'ai quand même lu un ou deux bouquins. J'ai lu notamment une bande dessinée de Guy Delisle, très drôle. Alors lui, sa bande dessinée raconte un périple en Corée du Nord, mais une dizaine d'années auparavant, je crois. Et donc voilà, j'ai regardé des vidéos, des choses comme ça, mais vraiment le moins possible pour vraiment avoir un regard, j'allais dire neuf, mais plutôt totalement vierge. Et en même temps, il n'y a pas tellement d'informations disponibles sur ce pays, hein.
C'est vrai que c'est fermé, hein, mais la Corée du Nord avait tout de même son groupe de K-pop fétiche, les Morangbong Band, surnommés les Spice Girls de Corée, un geste d'ouverture. Il y a aussi le marathon de Pyongyang, 2000 participants, dont 800 étrangers. Il est ouvert depuis 2014 à des amateurs. C'est une rentrée de devises aussi pour le pays, c'est pas rien. En vous lisant, on a l'impression que finalement, c'est assez simple d'y participer.
C'est d'une simplicité hallucinante. Moi, ce que je craignais, c'est quand je pars sur le projet avec Clémentine, on a tout de suite vu que la Corée du Nord était interdite aux Américains, à je sais plus quelle nationalité, il y en a deux autres, aux Coréens du Sud évidemment, et aux journalistes et aux écrivains. Donc voilà, Clémentine et moi, on est journalistes et écrivains. Effectivement, je me suis dit, bon là, ça part plutôt mal. Et moi, je suis passé par une agence de voyage basée à Pékin. Et j'ai joué la transparence avec eux, enfin la semi-transparence. J'ai tout de suite dit, voilà, mon ami est journaliste, moi-même je suis écrivain, mais c'est un projet perso, un délire sportif, personnel, qui n'a rien à voir avec le travail. Est-ce que ça pose problème? Et je me souviens que l'agence de voyage était plus ou moins étonnée que ça me pose un problème, quoi. Ils m'ont dit, bon, écoutez, on va transmettre l'info aux autorités nord-coréennes, mais a priori, tout le monde s'en fout. Et effectivement, je pense que tout le monde s'en fout, parce qu'on a été, on a eu nos visas, on a payé l'agence de voyage qui s'est occupée de toutes les formalités, et à aucun moment ça n'a posé de problème. Je ne pense même pas qu'on ait été surveillé plus que les autres une fois là-bas. Alors, tout est possible, mais j'en serais étonné.
Vous êtes arrivé en train par la Chine après être arrivé à Pékin. Ce passage de la frontière, c'était vraiment quelque chose de particulier, de marquant ?
Oui, c'était alors plutôt stressant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez le train à la ville frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Vous montez dans le train. Là, il y a déjà un petit stress avec les douanes, mais chinoises, qui finalement vous laissent quand même passer assez facilement puisque vous allez en Corée du Nord. Et ensuite, en Corée du Nord, les douaniers nord-coréens, on les a vus, on a dû faire un quart d'heure, 20 minutes de train en Corée du Nord. Le train s'est arrêté dans une ville et là, les douaniers sont montés. Donc, on a un petit stress là, un peu. On revoit défiler tous les films d'espionnage qu'on a pu voir dans sa vie. Et finalement, ils nous ont mis chacun dans nos compartiments. C'était des compartiments couchettes, donc on était 6 par compartiment. Chacun assis sagement sur sa couchette. Et je ne sais pas pourquoi le douanier, il est rentré. On était le premier compartiment. Nous, il est rentré, il nous a tous regardés. Et il m'a pointé du doigt, moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai dû descendre mon sac, j'avais un sac énorme de hockeyeur qui était en plus perché en l'air, je l'ai pris sur la tête, je me suis à moitié explosé par terre, il fallait pas rire. Et puis donc j'ai ouvert mon sac et j'avais plein de bouquins, la trousse de toilette, et en fait il a regardé comme ça, je l'ai fait rire, je sais pas pourquoi, il s'est marré, il m'a tapoté sur l'épaule, il est reparti et ça a été terminé. Voilà. C'était la fameuse visite des douaniers nord-coréens qui a duré 5 minutes.
Le voyage, c'était une expédition en soi, mais on va revenir maintenant à la course. Qu'est-ce que vous avez ressenti en entrant dans le stade avant le départ de la course ?
Alors là, c'était assez magique parce que déjà, la condition physique, à l'aller, on a fait en train donc Pékin-Pyongyang, c'est une trentaine d'heures. On est arrivé à 22h à l'hôtel et le lendemain, levé à 5h du matin pour manger quelques pâtes. Et je me suis retrouvé à 9h du matin dans un stade plein de, je crois, 50 000 personnes pour participer au premier marathon de ma vie sans ravitaillement. Voilà, pour redresser un peu le décor. Donc une fatigue intense, le décalage horaire, enfin, mais de se retrouver avec une foule qui nous a acclamés. Déjà, on se sent dans la peau d'un athlète de haut niveau. C'est assez marrant, on a l'impression d'être aux Jeux Olympiques. Vraiment les larmes aux yeux. Et après le départ, alors sur toutes les courses, quel que soit le pays, on prépare ça pendant plusieurs mois. Quand on est sur la ligne de départ, là, tout le monde se regarde, il y a une espèce d'énergie, d'euphorie presque. Mais alors là, le fait d'être en Corée du Nord, c'est encore plus fort, quoi. Quand le coup de pistolet a retenti dans le stade et qu'on est tous partis en courant, c'était un moment assez extraordinaire.
km, c'est long, c'est même très long, en courant, le plus souvent seul, c'est ce que vous racontez, même en écoutant du Bob Marley et du Richard Gottener, c'était votre playlist, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout au long de la course ?
Eh bien, tout le début était fantastique. La course à Pyongyang, c'est pas une boucle, c'est un aller-retour. Donc on fait 20 km dans un sens et après on revient. Et les 20 premiers kilomètres, c'était assez extra. Je me suis retrouvé à côté d'une jeune femme, évidemment, que je ne connaissais pas. Et souvent, dans ces courses, on se retrouve à deux ou trois, d'ailleurs, à aller au même rythme, et de façon un peu spontanée, naturelle, on se colle et on court ensemble, en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé avec cette jeune femme. On courait pile à la même vitesse. Donc, on ne s'adresse pas la parole, mais c'est un partenaire de course. Et là, c'était idéal. Sauf que je me suis aperçu, donc, au bout d'une vingtaine de kilomètres, qu'en fait, elle courait beaucoup mieux que moi et que moi, j'étais un peu en sur-régime. Encore une fois, l'euphorie, l'adrénaline, le plaisir d'être là fait que je suis allé un petit peu trop fort au début. J'ai puisé dans les réserves et donc ça s'est gâté au demi-tour, au kilomètre 20. Donc, ma partenaire d'un jour a continué sur sa lancée de façon parfaite et moi, j'ai commencé à tirer la langue et j'ai tenu quand même jusqu'au kilomètre 32 et là je me suis effondré, on appelle ça le mur du marathonien, c'est quand le corps dit stop. je me suis littéralement arrêté en me disant je n'ai rien à faire là, je ne veux pas être là, il reste 10 kilomètres, c'est impossible que je puisse les faire. Et j'étais dans une immense avenue à Pyongyang et totalement vide, donc c'est... Il y avait un côté un peu la quatrième dimension, là, cette vieille série américaine où il se passe que des choses bizarres.
You unlock this door with the key of imagination.
On va pas raconter le résultat du marathon, on va pas divulguer ça pour les futurs lecteurs. Vous êtes venus, vous avez vu, vous avez couru. On va revenir un peu sur la suite de votre voyage parce que vous avez fait aussi du tourisme, hein, c'était prévu. Une visite guidée, vous avez vu la Corée du Nord pour les Occidentaux ?
Ah oui, tout à fait. Alors, on avait très peu d'espoir de voir quelque chose, j'allais dire, de réel, de vrai. On était quasiment persuadés qu'on aurait très très peu de relations avec des citoyens normaux. Mais ça a été pire que ce qu'on craignait, quoi. Là, on a vraiment été dans une sorte de prison à ciel ouvert. Entre les hôtels, le bus et les endroits qu'on nous a visités, nos seuls interlocuteurs étant des gens qui font des visites guidées dans les musées, toujours à la gloire du régime et toujours anti-Amérique, avec une haine extrêmement virulente à l'endroit des États-Unis. Ce que je savais, hein, mais à ce point-là, c'est viscéral, c'est obsessionnel.
Vous avez dit deux choses qui m'ont marqué, moi, dans votre livre. Vous avez dit d'abord, je suis venu en Corée du Nord pour rencontrer un peuple, j'ai fait un safari, j'ai pas vu un pays qui vit, c'est une ville morte. C'est assez fort.
Ah oui, oui, mais c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Après, encore une fois, c'était pas une surprise, hein. Je disais tout à l'heure que j'ai peu lu, je me suis peu documenté pour arriver avec un regard naïf et neuf, mais je me faisais très peu d'illusions sur les rencontres que je pourrais faire. Mais effectivement, c'est vraiment... Les seuls interlocuteurs que nous avons eus, avec qui on a pu échanger, même rire, partager plein de choses, c'était les guides. Donc, ils sont pas du tout des personnes lambda et c'est pas du tout des rencontres spontanées. On a absolument pu parler à personne, ni visiter, évidemment, alors aucun intérieur chez personne. On n'a pas vu de vraie vie. Et c'est marrant parce que je ressentais un truc bizarre là-bas. Je savais pas quoi. Je sentais qu'il y avait un truc dans la rue, un truc louche, bizarre, je savais pas quoi. Et j'ai compris un an plus tard, c'est drôle, mais j'étais à la fenêtre de chez moi au début du confinement. Donc moi, j'habite à Besançon, dans une grande avenue. J'ai ouvert la fenêtre comme ça. Et de voir la rue vide de gens, de voitures, de tout, confinement, hein, on a tous vécu ça. J'ai eu un flash, ça m'a rappelé Pyongyang, les avenues vides. Et je me suis dit, ah mais c'est ça. C'est ça que j'ai ressenti là-bas, c'est ce vide. Vide de vie, d'activité, en fait.
Vous racontez qu'avant de passer la frontière, l'agence de voyage vous a prévenu des impairs à ne pas commettre. Par exemple, prendre un militaire en photo. Dans le même temps, il y a une anecdote incroyable. Votre visite de la zone démilitarisée entre le nord et le sud, avec des soldats à la gâchette facile, c'est une visite qui s'est faite avec une drôle de sculpture en sucre.
Ah oui, alors ça, c'était étonnant parce que la veille, en fait, on est allé à une exposition de sculpture en sucre. Donc, il y avait un chien fait uniquement en sucre, tous les poils qui étaient des fils de sucre. Enfin, c'était assez hallucinant. Donc, on était un groupe de 16 personnes, totalement. Il y avait de tous les pays. Et il y avait deux Australiens qui ont voulu acheter un camion militaire surmonté d'une ogive nucléaire en sucre. Voilà. Alors, ça, c'est le folklore nord-coréen. Et ça les faisait mourir de rire, mais c'était un machin énorme, puisqu'ils prenaient deux places dans le bus. Donc ils ont acheté ça, je sais pas combien, c'est pas le propos, mais... Et donc le lendemain, on part tous à la zone démilitarisée. On fait pas gaffe à ce truc-là qui est posé là, on n'y pense pas, quoi. Et quand on arrive effectivement à la DMZ, la zone démilitarisée, là, il y a un accueil un peu avec un militaire qui monte dans le bus, qui regarde un peu tout le monde... Et qui, on sent que c'est un endroit sensible quand même. C'est une zone militaire vraiment tendue. Et donc, son regard se porte sur une ogive nucléaire en sucre qui occupe les deux sièges à l'avant. Et là, en fait, on s'est tous mis à regarder nos chaussures en se disant, mais c'est complètement débile. On se retrouve dans une situation avec un militaire énervé pour une sculpture en sucre. C'était, bah après, il n'y a rien eu. Il nous a laissé passer, mais je me souviens qu'il a tiqué sur cette fameuse bombe nucléaire en sucre.
Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m.
Pyongyang 1071, hein, c'est le récit d'un voyage assez extraordinaire. Ça se lit vraiment avec beaucoup de plaisir. Vous auriez pu en faire un polar ?
Alors, j'aurais pu, effectivement. Et j'ai même des collègues auteurs de romans policiers qui m'ont presque engueulé en me disant comment tu peux aller passer 10 jours dans ce pays-là et ne pas en faire un roman policier. Mais c'était pas le projet. Et alors moi, dans mes romans policiers, j'ai besoin vraiment de connaître à fond les endroits. Tous mes romans se passent en général dans la ville où je vis. Donc je l'ai pas fait, mais ça aurait pu. Mais il y a un super polar qui est sorti aux éditions des Arènes, les collections Equinox, qui s'appelle L'Étoile du Nord. C'est un thriller qui se passe entre les États-Unis et Pyongyang, et qui m'a fait beaucoup plaisir parce que il y a plein de scènes qui se passaient dans l'hôtel où j'étais à Pyongyang. Donc de visualiser le, je pense que je fais partie des rares lecteurs qui ont pu visualiser toutes les scènes dans cet hôtel et dans la ville de Pyongyang.
Merci Jackie Schwartzman, écrivain, auteur de Pyongyang 1071, publié par Paul Sen. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain, direction l'Asie dans cette série consacrée aux nouveaux explorateurs pour se perdre dans les plis du monde.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.